Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Un Napoléon africain, voici comment le journal Aujourd'hui au Faso qualifiait le président rwandais Paul Kagame lors de l'annonce de sa candidature aux élections présidentielles de juillet prochain. Les résultats ne font que peu de doutes. Son score devrait avoisiner les 98%, le prolongeant au pouvoir pour un quatrième mandat, alors que se tiendront les 30e commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. La semaine prochaine, nous vous proposons d'analyser les ressorts d'un régime qui fascine autant qu'il clive. Pour certains, l'ancien guérillero est devenu un autocrate parmi les plus intransigeants. Pour d'autres, il a mis son pays sur une voie que bien d'autres lui envient. Comment qualifier la manière dont Paul Kagame exerce le pouvoir? Bonjour Maria Malagardis.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter chargé de l'Afrique à Libération. Vous revenez du Rwanda et vous allez publier avant la nuit un roman chez Talent Édition. Et puis vous allez co-signer avec Michael Stanke un documentaire consacré au Rwanda qui sera diffusé dimanche 7 avril à 21h sur France 5, 98% une élection, c'est un score qui paraît quand même très élevé.
C'est un score assez inhabituel, effectivement.
Dans les démocraties.
Dans les démocraties. Alors effectivement, si on s'en tient à certains critères comme l'existence, la possibilité d'une alternance politique, l'existence d'une opposition crédible et de médias qui puissent former un contre-pouvoir, il est certain que le Rwanda n'est pas, ne peut pas être qualifié de démocratie. Paul Kagame est au pouvoir, en réalité, depuis la fin du génocide. Formellement, il est devenu président en 2000. Et comme vous le rappeliez, il se représente en juillet avec, a priori, un seul challenger, qui est le leader d'un petit parti écologiste, donc effectivement, qui a peu de chances de lui voler la vedette. Maintenant, vous remarquerez aussi que dans la région, il n'y a pas beaucoup de grands démocrates, hein, chez tous les voisins. Ouganda, République démocratique du Congo ou Burundi. Les scores sont peut-être moins pharaoniques, mais malgré tout, ce sont pas non plus des démocraties comme on les entend chez nous. Mais Paul Kagame a plusieurs particularités. D'abord, il faut pas oublier, vous rappeliez que nous allons la semaine prochaine commémorer les 30 ans du génocide. C'est son mouvement rebelle, le Front patriotique rwandais, qui a seul arrêté le génocide et fait fuir les chefs d'orchestre de cette solution finale africaine. Ce n'est pas rien, ça lui vaut quand même une certaine aura. J'ai couvert le génocide en 94 et j'y suis retournée juste à la fin de la tragédie à nouveau en 94. Personne ne pouvait à l'époque prédire que ce pays allait ressurgir de ses cendres. Alors il y a ce miracle économique dont on crédite Kagame. Il y a le traumatisme persistant du génocide, parce que, et si vous lisez mon livre, vous le verrez, la montée des périls que je raconte dans ce roman, elle s'est accompagnée d'une démocratisation historique au Rwanda. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 90, on avait un parti unique, il y avait une presse très contrôlée. Les partis d'opposition sont libéralisés, autorisés en 91-92. Émerge toute une série de journaux et une radio qui pourraient donner l'impression qu'on assiste à une effervescence de liberté médiatique. Or, cette démocratisation politique et cette libération de la parole vont en réalité être captées par les extrémistes et vont s'accompagner d'une montée de la stigmatisation de la minorité tutsi et de l'intolérance. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça crée dans le pays une référence assez particulière et on a l'impression que il y a aujourd'hui au Rwanda une certaine méfiance chez beaucoup de gens de ce qui pourrait apparaître comme la porte ouverte à tous les discours, à toutes les discussions. Il y a encore évidemment des surtout après le génocide des paroles qui sont proscrites. On ne peut plus parler de Tutsi ou Hutu officiellement et publiquement. Maintenant, dans les familles, tout le monde utilise ces dénominations parce que officiellement, tous les Rwandais sont d'abord Rwandais. Bref, il y a toute une série de choses qui sortent, qui résultent du traumatisme du génocide. Et puis, il y a un environnement régional un peu particulier et tendu qui fait qu'en réalité, on a quand même l'impression qu'il est très populaire, Kagame.
Ah oui, alors, justement, puisque vous parlez donc de cet environnement qui est un environnement régional effectivement tendu, avec aujourd'hui, dans un pays voisin, la RDC, une rébellion, le M23, qui, selon le président de la RDC, est soutenu par le Rwanda. Quelques mots à ce sujet, Maria Malagardis ?
Certainement. Écoutez, je suis allée récemment au Rwanda, je ne suis pas allée en RDC, mais je lis les rapports de l'ONU qui disent qu'effectivement, le M23 recevrait du soutien du Rwanda. Donc, j'ai aucune raison de penser que ça serait faux. Maintenant, il faut savoir que... une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de dire, et alors ? D'accord, très bien, c'est condamnable. Mais pourquoi le M23 existe ? Pourquoi cette rébellion est là ? Elle est là parce que il y a des problèmes récurrents de stigmatisation de certaines communautés, notamment la minorité tutsi congolaise. Hein, il faut bien avoir toujours.
Est-ce que le M23 est une rébellion tutsi ?
Majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement. En tout cas, il prétend protéger. La communauté tutsi, qui est plus que stigmatisée. Hein. Il y a des assassinats de tutsi, des arrestations de tutsi, il y en a tous les jours en RDC, et de plus en plus. Alors il y a un peu la théorie de l'œuf et de la poule, est-ce que c'est la résurgence du M23 qui fait qu'on a commencé à cibler systématiquement les tutsis, ou le contraire ? Mais vous savez, moi, quand j'entends qu'on limite le débat, le M23 est soutenu par le Rwanda, ça me rappelle avant 94, le Front Patriotique Rwandais, donc qui va arrêter le génocide, on le qualifiait d'Ougando tutsi, on immédiatement, dès qu'on l'évoquait, on disait soutenu par l'Ouganda. Aujourd'hui, plus personne n'en a rien à faire et ne se préoccupe de savoir si, au début des années 90, l'Ouganda soutenait le Front Patriotique Rwandais. Certainement, puisque ses leaders étaient partis de l'Ouganda. J'ajouterais que les gens du M23 sont majoritairement, quand ils ne sont pas en RDC, basés en Ouganda. Pourquoi on ne dit pas que le M23 est aussi soutenu par l'Ouganda ? Pourquoi on ne dit pas que le M23 est également soutenu par un nouveau mouvement qui s'appelle l'Alliance du Fleuve Congo, qui est présidé par un personnage très important en RDC, qui est l'ancien président de la commission électorale, Corneille Nangaa, et qui a fait sécession, on va dire, qui maintenant est un opposant déclaré au président Félix Tshisekedi, et qui est un milliardaire et qui est aux côtés du M23 de nos jours. Donc la situation est complexe et je pense que avoir ce genre de raccourcis caricaturaux n'aide pas à comprendre la situation.
Alors Paul Kagame, donc, qui a été comparé à un Napoléon africain, est un Napoléon qui n'aime pas la France.
Oh, ça va beaucoup mieux. Maintenant, avec Macron, ça va plutôt bien.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Emmanuel Macron a, commandité ce rapport d'historiens qui ont ouvert les archives et qui ont mis en avant une certaine compromission de la France lors de cette fameuse montée des périls des années 90, pour ne pas dire plus. Donc voilà, il y avait cet abcès entre la France et le Rwanda, qui est que finalement l'Élysée, hein, quand on dit la France, pas vous, pas moi, parce que ce qui est très intéressant dans cette histoire de soutien français à un régime
un régime génocidaire,
c'est que ça s'est déroulé dans un véritable déni démocratique. En fait, nous, en tant que Français, on n'a été absolument pas avertis. Ça se gérait à l'Élysée, dans l'Élysée de François Mitterrand. Donc, il y avait cet abcès entre la France et le Rwanda. Le rapport des historiens et un autre rapport rwandais qui a été publié dans le même temps ont permis d'apaiser ces tensions. C'est un ancien lanceur d'alerte qui avait été placardisé, qui est aujourd'hui ambassadeur de France au Rwanda. Donc oui, il y a encore certainement des différends. Il y a beaucoup de présumés génocidaires qui se trouvent en France, mais pas seulement. Donc j'ai l'impression que les relations entre la France et le Rwanda vont mieux que celles entre le Rwanda et la Belgique en ce moment.
Quelques mots sur donc cette commémoration, les 30 ans du génocide Tutsi qui vont avoir lieu dans quelques jours, Maria Malagardis.
Eh bien, 30 ans, c'est pas beaucoup en fait. Et en fait, on sent que alors c'est très paradoxal parce qu'il y a une sorte d'injonction au Rwanda de dire voilà, le génocide appartient au passé, il faut aller de l'avant, il faut construire le pays, mais dans les cœurs, c'est pas encore réglé. Ça continue à hanter la plupart des Rwandais.
Merci Maria Malagardis. Alors votre roman Avant la nuit qui est paru chez Talent Édition et ce documentaire que vous avez co-signé avec Michael Stanke, Rwanda vers l'apocalypse, le monde en face, il sera diffusé le dimanche 7 avril à 21h sur France 5. Dans quelques instants avec Science, Alexandra Delbault.